Bonjour. 4000 flacons et le début d'une solution. Les premiers vaccins contre le coronavirus sont arrivés en France ce matin. Stockés à très basse température et sous haute sécurité. Début de la campagne demain partout en Europe et première piqûre en Île-de-France et à Dijon. Faut-il s'inquiéter de la nouvelle souche du Covid-19 désormais détectée en France? Elle serait plus contagieuse, nous explique un infectiologue. Et pour ces vacances, pas de ski, conséquence de l'épidémie. Pourtant, certaines stations s'en sortent plutôt bien. Nous serons dans les Pyrénées tout à l'heure avec notre invité. Au sommaire également, le Brexit, J-5. Quelles conséquences pour les pêcheurs français? La ministre de la Mer promet le soutien de l'État sur Inter. Nous serons aussi en Centrafrique où la présidentielle et les législatives sont maintenues malgré les vives tensions dans le pays. Le nouveau film de Georges Clooney aussi. Et puis à la fin de ce journal, la musique en cadeau et qui réchauffe le cœur de nos anciens. 13h20, ce sera Secret d'Info, Jacques Monin au programme ce samedi.
Eh bien, comme chaque année autour de Noël, un débat autour du journalisme d'investigation, montée en puissance des théories du complot, de la désinformation, article 24 de la loi sur la sécurité globale. On en parlera avec nos invités.
À tout à l'heure, juste après la météo, un temps gris aujourd'hui, sauf dans le sud du pays. Samedi 26 décembre, c'est le journal de 13h.
France Inter.
C'est l'espoir de pouvoir vivre les prochains mois en pensant un peu moins au coronavirus. Les premiers flacons de vaccins sont arrivés en France tôt ce matin, venus sous escorte depuis la Belgique. 4000 flacons pour administrer au total 19 500 doses du sérum de Pfizer-BioNTech. Des cartons maintenus à très basse température, livrés près de Paris, sous vos yeux, Mathilde Vinceneux, dans un lieu tenu secret.
Le camion est arrivé très tôt, escorté par des motards de la police nationale. Le chauffeur a déchargé 4 cartons dans le hangar.
Donc 4 grandes caisses isothermes dans lesquelles sont réparties l'ensemble des doses vaccinales contre le Covid.
Franck Huette est le directeur de cette plateforme pharmaceutique hospitalière.
Nous avons reçu donc l'équivalent de 19 500 doses d'injection. Donc on va ouvrir les cartons, on va faire un contrôle de la température. On a bien sûr à notre disposition des gants spécifiques, comme il y a à l'intérieur de chaque carton de la carboglace pour éviter de se brûler. Et donc on va rentrer les flacons directement dans le congélateur.
À l'intérieur, la température est contrôlée en permanence par des sondes. Elle doit osciller entre moins 60 et moins 80 degrés. Quelques doses ne passeront pas par ce congélateur. Elles repartent directement sous escorte vers les deux premiers sites de vaccination.
Une commande qui partira en Bourgogne, 30 doses. Et puis une deuxième commande qui partira dans un établissement de l'assistance publique pour 15 injections maximum.
C'est Anne Darchy, pharmacienne, qui dispose les flacons dans des petites boîtes isothermes.
Le fait de décongeler les flacons et de les mettre en température entre plus 2 plus 8 fait que maintenant ils doivent être utilisés dans les 5 jours.
C'est donc une course contre la montre. Une fois livrés, les hôpitaux et les EHPAD doivent vacciner au plus vite les patients pour éviter les pertes.
Et 3 autres sites sont approvisionnés aujourd'hui à Tours, Lille et dans la région lyonnaise avant le début de la campagne de vaccination demain. En France, donc, et partout en Europe, première piqûre chez nous dans des EHPAD de Sevran, près de Paris et à Dijon. Et tandis que ces premières doses arrivent chez nous, c'est une nouvelle souche du virus qui inquiète. Apparue chez nos voisins britanniques, puis détectée en France, chez un expatrié, revenu de Londres le week-end dernier, est testé positif à Tours. Il est en quarantaine, sans symptômes. Nouvelle souche détectée aussi en Allemagne, à proximité de la frontière avec l'Alsace, et 4 cas aussi en Espagne. A priori, les vaccins devraient rester efficaces face à cette variante et qui semble plus contagieuse, comme l'explique Benjamin Davido. Il est infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
Ça risque de créer à nouveau une tension hospitalière, ou du moins d'empêcher d'avoir un nombre de contaminations qui va descendre. Parce que les estimations montrent que cette augmentation de l'accrochage finalement par la protéine spicule du virus aux cellules permet probablement au virus d'être plus contagieux, et ça veut dire que le R0 peut monter jusqu'à 0,4 points supplémentaires. Souvenez-vous, cette fameuse valeur dont il faut qu'elle reste en dessous de 1 pour contrôler la circulation du virus, et en France je crois qu'on est autour de 0,96, et donc on voit bien que si ce variant commençait à devenir prépondérant, j'ai envie de dire, eh bien on serait très embêté pour avoir un contrôle durable de la circulation du virus. virus. Et ça veut dire que probablement, d'ores et déjà en Angleterre, ils réfléchissent à accélérer la campagne de vaccination pour prendre le pas sur le virus et pas se retrouver dépassé par les événements sur le calendrier vaccinal.
L'infectiologue Benjamin Davido interrogé ce matin sur France Info. Nous reparlerons du Covid et de ses conséquences sur l'économie de la montagne, complètement à l'arrêt. Ce sera dans quelques minutes avec notre invité. Nous serons dans une station des Pyrénées quand certains de nos voisins annoncent des reconfinements face à la flambée des cas, et ce avant même la fin de cette période de fête. Couvre-feu décrété en Autriche pour un mois. Nouvelles restrictions aussi plus fermes en Irlande du Nord et en Écosse. L'Écosse qui ne cache pas ses envies d'indépendance à quelques jours du Brexit, compte à rebours lancé. La sortie de l'Union européenne pour le Royaume-Uni est prévue jeudi à minuit. Londres a d'ailleurs publié ce matin le texte de l'accord finalement conclu après des mois de négociations, 1246 pages au total, sorti avec un deal, même s'il y aura sans aucun doute des conséquences côté français. Il faut s'attendre à un peu de casse chez les pêcheurs, dit ce matin sur Inter la ministre de la Mer, Annick Girardin, et ce malgré la période de transition qui doit durer 5 ans. Il y aura des mesures d'aide, assure la ministre, et dès le 1er janvier notamment un soutien à très court terme.
Pour toutes les entreprises qui auraient des problématiques de trésorerie, ce sont des avances de 30 000 euros maximum pour chacune de ces entreprises, du moyen terme avec les arrêts temporaires et les indemnités de compensation, et du long terme avec effectivement l'activité partielle de longue durée, mais aussi les possibilités de sortie de flotte. Mais effectivement, les marins-pêcheurs, l'accompagnement, ils en auront besoin, mais le sac à terre, c'est-à-dire ne pas aller en mer, c'est quelque chose qu'ils vivent très très mal. Mais nous serons aussi à leur côté physiquement, c'est-à-dire que les forces vives sur les territoires seront à leur côté, les services de l'État seront là en permanence et du mieux de l'État pour les accompagner bien sûr au quotidien.
Cet accompagnement, il sera national ou européen ?
Alors, il sera de deux niveaux, effectivement, niveau national et niveau européen, puisque vous le savez, il y a un fonds de 5 milliards d'euros qui a été prévu pour accompagner les suites du Brexit. Sur ces 5 milliards d'euros, une partie ira à la pêche, il faut maintenant le définir, permettant aussi des aides européennes.
Annick Girardin, ministre de la Mer, ce matin dans le 6-9 avec Patricia Martin, l'accord post-Brexit qui prévoit que les pêcheurs renoncent à 25% des captures dans les eaux britanniques d'ici 2026. Autre conséquence du Brexit à prévoir dans le monde du football. Les transferts risquent d'être bien plus réglementés à partir de jeudi. C'était jusque-là une aubaine pour les grands clubs anglais et surtout l'occasion de traverser la Manche pour les jeunes talents français. Fabrice Abgral.
Avec le Brexit, les clubs anglais vont devoir revoir une partie de leur mode de fonctionnement. Ils doivent désormais respecter les règles de la Fédération internationale qui interdit par exemple le recrutement des joueurs de moins de 18 ans. Les transferts de ceux situés dans la tranche d'âge 18-21 ans seront plafonnés. Les clubs anglais ne pourront pas en recruter plus de 6 sur l'ensemble d'une saison, dont 3 lors du prochain mercato d'hiver. Les joueurs désireux de venir jouer dans le championnat anglais devront obtenir un permis de travail comme tous les autres joueurs étrangers non européens. L'attribution de ce permis se fera via un système par points basé d'abord sur le nombre de sélections du joueur en équipe nationale, que ce soit chez les A ou dans les autres catégories, dont celle des jeunes, ensuite sur le prestige du club dont il provient et enfin sur son nombre d'apparitions avec ce même club. La fédération anglaise voit dans ce Brexit l'opportunité de favoriser l'émergence de jeunes joueurs locaux, trop souvent privés de temps de jeu par la présence d'un nombre trop élevé de joueurs étrangers.
Fabrice Abgral, J-5 donc avant la sortie de l'Union européenne pour nos voisins britanniques, plus de 4 ans et demi après le vote. Le Brexit, bien plus compliqué qu'un simple oui ou qu'un simple non, nous l'avons constaté ces derniers mois. Et jusqu'à jeudi, nous vous proposons dans le 13h des témoignages, les contre, les inquiets, ceux qui ont désormais des regrets, et les pour, évidemment, comme John Redwood, député de la majorité conservatrice, ancien ministre de Margaret Thatcher, le voilà maintenant pressé de quitter l'Union.
Je pense que nous avons maintenant beaucoup d'opportunités pour améliorer notre économie et notre société en revendiquant nos droits d'adopter nos propres lois et de prendre nos propres décisions, de dépenser notre propre argent pour nos propres priorités, d'élaborer des accords de libre-échange avec d'autres pays du monde où ils le souhaitent. Nous avons de bien meilleures relations commerciales avec les pays en pleine croissance qu'avec l'UE ces dernières années, de toute façon. Les politiques de pêche et d'agriculture auront beaucoup plus de sens pour le Royaume-Uni parce que ces industries sont gravement endommagées par la politique agricole commune qui nous a été imposée. Lorsque je regarde dans le passé ce qui s'appelait à l'origine le marché commun, devenu le marché unique, je pense aussi que ça nous a été préjudiciable.
Le député conservateur John Redwood avec Richard Place à Londres pour France Inter. Prochain témoignage demain midi avec un éleveur boucher inquiet de voir les normes évoluer. Et puis après un Noël passé dans la cabine de leur camion, les derniers routiers bloqués à Douvres, obligés de se faire tester contre le Covid avant de traverser la Manche, voient le bout du tunnel. Les retours s'accélèrent en ce samedi vers la France et tout doit rentrer dans l'ordre aujourd'hui. On apprend ce samedi la mort d'une taupe. George Blake, ancien agent double britannique, mais qui espionnait pour le compte du KGB soviétique dans les années 50, avant de passer définitivement à l'Est. Il avait 98 ans. Week-end d'élection au Niger, élection présidentielle avec pour la première fois depuis l'indépendance la promesse d'une vraie transition démocratique, présidentielle aussi et législative en Centrafrique, avec là une situation très tendue en cause de l'offensive de groupes rebelles qui contrôlent les deux tiers du territoire. Ce matin, 3 casques bleus ont été tués, 2 autres blessés et au moins 6 candidats de l'opposition réclamaient le report du vote. Mais le scrutin est maintenu. Sur place pour Inter, Charlotte Cossé.
La Cour constitutionnelle a tranché ce matin. La date du 27 décembre est maintenue pour la tenue du scrutin. La Cour a décidé que les recours déposés étaient recevables. Néanmoins, elle fait primer les dispositions de la Cour constitutionnelle sur le code électoral. Pour elle, il serait inconstitutionnel de repousser la date du vote. 8 recours avaient été déposés afin de revoir le chronogramme électoral. La plupart déposés par des politiques estiment que le scrutin ne peut avoir lieu dans les conditions sécuritaires actuelles. Des combats ont lieu dans différentes régions du pays. Du matériel électoral a été détruit, des équipes électorales empêchées. La Cour constitutionnelle a décidé que ces dysfonctionnements relèvent du contentieux électoral qui seront traités après la tenue de l'élection. Si Bangui ce matin est calme, des dispositions sécuritaires importantes sont prises. La MINUSCA est en alerte maximale et a reçu des renforts venus du Soudan du Sud. 3 casques bleus ont été tués hier dans la ville de Dekwa. Des observateurs craignent la recrudescence des affrontements dans le week-end pour empêcher la tenue du scrutin. Charlotte Cossé, Bangui, RFI pour France Inter.
Et au Sahel, ce sont 2 soldats français de la force Barkhane qui ont été blessés lors d'une dispute la nuit du réveillon de Noël. Les militaires étaient sous l'emprise de l'alcool et l'un en a blessé 2 autres avec son arme de service, un pistolet automatique. 2 blessés qui ont été rapatriés en France.
France Inter, le journal de 13h. Xavier Demany.
Quoi de pire que des pistes enneigées et des remontées mécaniques à l'arrêt, supplice dans les stations de ski en cette fin d'année, contrainte de rester fermée à cause du coronavirus. Saison à peine commencée qu'elle est déjà terminée, disent ce matin des gérants de magasins de sport en montagne. Et pourtant, certaines stations ne s'en sortent pas si mal. Allons dans les Pyrénées, par exemple. Bonjour Laurent Garcia.
Bonjour.
Vous dirigez l'office du tourisme de la vallée du Louron et le domaine skiable de Peyragudes, Hautes-Pyrénées. Ce que vous constatez pour ces vacances sans ski alpin, c'est que la diversification des activités vous sauve, en quelque sorte.
Oui, on peut dire que la promesse faite aux vacanciers a permis de maintenir les réservations qui étaient notamment sur le site de 900 mètres à Loudanviel, au pied de la télécabine qui relie la station de Peyragudes au lac de Génaux-Soudanviel. Et on a eu la bonne surprise d'avoir des réservations maintenues et même sur les derniers jours qui ont précédé les vacances, de renforts d'appels pour venir passer quelques jours en montagne. Donc effectivement, c'est tout déjà une moindre compensation par rapport au fait d'avoir totalement fermé la station.
Donc c'est le village qui attire en chiffres, ça donne quoi ?
En fréquentation, on s'en sort avec autour de 60% de fréquentation selon les jours, parce qu'on est beaucoup sur du coup séjour. Mais si on compare la fréquentation qui a totalement chuté sur les sites d'altitude à 1600 mètres au pied des pistes, où là on est autour de 20%, voire moins. Donc on voit bien que l'engouement d'un village authentique pyrénéen à 900 mètres d'altitude au bord d'un lac connaît un certain succès.
Et concrètement, qui vient ? Ce sont des locaux ou des vacanciers qui viennent de plus loin ?
Des locaux résidents secondaires qui sont malgré tout présents, c'est pas un gros bassin d'accueil de résidents secondaires, mais ce sont aussi des vacanciers qui sont venus profiter des résidences secondaires, du panorama exceptionnel qu'on le trouve autour de ce lac Génaux-Soulanviel, et puis de profiter d'activités qui leur étaient malgré tout proposées. Je pense par exemple à Balnéa, qui est un très beau centre de bien-être, qui est le premier centre de montagne, qui a pu, grâce à ses bassins extérieurs et grâce au centre de soins à la personne, maintenir son ouverture pendant ces vacances.
J'allais vous demander ce qui vous permet, si vous me permettez l'expression, de garder la tête hors de l'eau. C'est ça, ce sont ces infrastructures développées autour, en plus de la station de ski de piste.
Oui, qui nous renforce habituellement en hiver parce que ce sont des activités complémentaires par rapport à une station de taille moyenne qui est celle de Peyragudes, mais qui nous permet tout au long de l'hiver de proposer des alternatives au ski. Donc balnéaire, je viens de le citer. Bien entendu, nous avons toute une série d'autres activités qui fonctionnent été comme hiver. Je pense à la randonnée en fond de vallée avec de nombreux itinéraires balisés sur cette station de randonnée. Ça fonctionne également avec de la neige un peu plus haut avec des balades en raquettes, seules ou accompagnées. Et puis des variations autour de ce qui roule, le VTT, quand on est sur les bas de vallée avec des itinéraires balisés, sécurisés, c'est de l'ordre de 400 km que l'on propose à la clientèle. Et certains vont les pratiquer en trottinette de descente avec encadrement. Voilà, on a une variation d'activité qui compense malgré tout.
Laurent Garcia, cette crise que nous traversons n'est-elle pas une sorte d'alerte? Est-ce qu'on n'a pas trop misé sur le ski de piste, surexploité la montagne?
On a beaucoup misé, c'est vrai que c'est aussi une activité qui s'équilibre. Donc aujourd'hui, on est sur des activités de compensation qui satisfont les vacanciers, mais qui sont loin de générer un équilibre économique tel qu'on en a besoin dans nos vallées. Donc aujourd'hui, cette stratégie de diversification, oui, il faut l'anticiper, et c'est ce qui est le cas de la vallée du Luron depuis de nombreuses années, mais on voit bien que c'est encore insuffisant pour permettre aux gens de maintenir leur activité ouverte, de faire travailler l'ensemble des salariés qui travaillent sur le domaine skiable, dans les commerces et autres, qui sont aujourd'hui à la peine.
Clairement, ça n'absorbe pas ce que génère le ski de piste, les grandes stations, c'est ça?
Ça ne génère pas, et d'abord, ça ne peut pas occuper en même temps autant de monde qu'on peut occuper grâce au ski de piste et aux remontées mécaniques. On fait skier simultanément plusieurs milliers de personnes. Donc là, les accompagnateurs, les loueurs et autres proposent des activités qui occupent les personnes présentes. Mais c'est vrai qu'on est loin de pouvoir offrir des activités massifiées sans être dans l'excès, mais qui contentent plusieurs milliers de personnes simultanément pour prendre un vrai bol d'air pur en montagne. Donc ça nous manque. Et c'est vrai qu'on a du mal encore à concevoir des activités relais, qui soient suffisamment génératrices de revenus.
Laurent Garcia, directeur du domaine skiable de Peyragudes, Hautes-Pyrénées. Merci à vous et bonne fin d'année quand même dans les Pyrénées. De la terre à la mer, à la pleine mer, le vent des globes et les deux leaders qui jouent à touche-touche en ce moment, Yannick Bestaven est repassé devant Charlie Dalin. En attendant la réouverture des salles de cinéma, coup d'œil au nouveau film de Georges Clooney, c'est sur Netflix. Et c'est recommandé par le service culture d'Inter. Minuit dans l'univers, adaptation du best-seller de Lily Brooks Dalton, qui raconte les dernières heures d'un scientifique prêt à tout pour sauver ce qui peut l'être sur une planète suffocante. Corinne Pellissier.
Come in, Ether. This is Barbo Observatory. Are you receiving this?
Le futur de l'humanité est entre ses mains. George Clooney dans le rôle d'Augustine Lofthouse, scientifique renommée, resté seul dans sa base de l'Arctique tandis que les derniers survivants établissent des camps dans des souterrains. Nous sommes en 2049, trois semaines après une catastrophe humaine qui a rendu l'air irrespirable. Scénario crédible et effrayant que le comédien réalisateur adapte ici avec une grande sobriété, sans effets spéciaux, dans un décor naturel, pour la partie en tout cas autour du périple de cet homme vieillissant et amaigri qui va braver le froid et les tempêtes polaires pour tenter d'établir le contact avec l'équipage d'un vaisseau spatial. Deux points d'ancrage dans l'univers, deux ambiances pour ce film en forme de course contre la montre, imprégné de références assumées à des films comme Gravity d'Alfonso Cuarón ou The Revenant d'Alessandro Iñárritu, triplement récompensé aux Oscars. Rien de vraiment nouveau, mais une fable ultra réaliste et touchante, avec ce message en forme d'espoir à la lumière d'un quotidien sous Covid. Une autre issue est possible, il n'est pas encore trop tard.
Minuit dans l'univers, à voir sur Netflix. Musique composée au passage par le français Alexandre Desplat. De la musique d'ailleurs pour terminer ce journal et avant tout garder le moral. Une chanson en cadeau pour les plus âgés d'entre nous. C'est à La Tour du Pin en Isère. Il suffit de choisir le morceau et l'horaire pour un proche. Ensuite des musiciens, Sarah Calaman s'occupe du reste.
Sur le pas de sa porte, Annie ne s'attendait pas à trouver comme cadeau de Noël un accordéon et des amis.
C'est offert par vos copines qui sont heureuses de vous offrir et viva Espana.
La musique résonne dans tout l'immeuble et Annie ne peut pas s'en empêcher. Elle se met à danser sur cette chanson qui lui rappelle sa jeunesse.
Les dimanches, les balles, c'était... On faisait des kilomètres à pied pour aller danser. Hein. On aimait une musette. Hein. C'était pas du rap. Hein.
Cette année, Annie et ses copines n'ont pas pu se voir autant qu'elles auraient aimé. La photo Covid, bien sûr. Alors cette surprise l'émeut aux larmes.
C'est un très beau cadeau de Noël. Vous voyez, j'ai des amis. Hein. Ah oui, heureusement d'ailleurs. Franchement, merci.
Une émotion partagée par Isabelle, l'accordéoniste.
C'est du bonheur. Je sais pas, j'ai que ce mot dans la bouche, du bonheur, parce que c'est un plaisir partagé en fait.
Et que les proches, ceux qui préparent ces surprises pour leurs aînés, lui rendent bien.
Ça c'est pour vous.
Ah bah, c'est gentil.
Voilà, merci. Bah merci, vraiment.
Merci.
C'est vraiment une super...
Face au succès de l'opération, la mairie et Isabelle envisagent de renouveler l'expérience dans l'année pour la Saint-Valentin et même pour Pâques.
Sarah, merci. Calamant, France Bleu Isère, une belle surprise et des sourires, ça fait du bien en ce moment.
La météo avec les œufs de Loué. Par tous les temps, les œufs de Loué sont pondus par des poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Les prévisions météo, c'est avec Jean-Michel Golinski.
Un temps particulièrement agité. Demain, la perturbation tempétueuse nommée Bella, arrivant des îles Britanniques, va traverser le pays. La séquence va commencer la nuit prochaine par les côtes de la Manche, avec une accélération sensible du vent vers 100 km à l'heure dans l'intérieur, jusqu'à 130 sur les caps exposés, le tout s'accompagnant de pluies soutenues. Demain en journée, ce temps agité va gagner vers le sud et l'est avec toujours beaucoup de vent et de pluie et de la neige tenant au sol dans le quart nord-est à très basse altitude. Neige abondante demain soir sur le Limousin jusqu'à 40 cm à partir de 800 mètres. La neige à basse altitude atteindra également l'est du Massif central et les Alpes dans la nuit de dimanche à lundi. Aujourd'hui, malgré un mistral et une tramontane assez puissants, l'ambiance sera relativement calme avec du soleil pour les régions méridionales, des averses sur la Corse et puis une grisaille assez marquée sur les deux tiers nord du pays accompagnée d'ondées avant l'arrivée de pluies plus organisées ce soir par la Manche.
Et on retiendra surtout les flocons pour cette fin d'année. Jean-Michel Golinski de Météo France. Dans une poignée de secondes, Secret d'Info, ne bougez pas.